Nous sommes surpris quand nous apprenons qu'un pasteur ou qu'un responsable d'église a commis une faute grave, qu'il s'agisse d'un adultère, d'un vol, d'un viol, d'un meurtre ou d'autres choses tout aussi graves que cela, et la liste des choses abominables peut être longue. On voit généralement ce responsable d'église comme quelqu'un qui est saint, quelqu'un qui est proche de Dieu, tellement proche que jamais un tel acte pourrait être commis. On se dit, mais comment est-ce possible? C'est la stupeur, c'est la consternation. Eh bien, l'histoire d'aujourd'hui, que vous connaissez sans doute bien, l'histoire de David et de Bathsheba, est l'histoire d'un homme de Dieu qui a failli. Cette histoire intervient dans un moment de la vie de David où jusque-là nous l'avons connu comme un homme pieux, saint, un homme de prière, un homme de foi, un homme exemplaire à tous égards, un vrai berger pour son peuple. Il était un modèle pour tous. Et pourtant, il y a une faille dans sa vie. Une faille qui le fait chuter à un moment donné où il aurait dû être vigilant. Il se passe qu'il se laisse aller à l'usage de son pouvoir et qu'il fait un abus de pouvoir. Il profite d'une position de supériorité pour attirer dans son filet une femme mariée qui n'a pas vraiment d'autre choix que d'accepter les avances du roi. David pense pouvoir tout maîtriser dans cette situation. Mais cette aventure d'un jour dérape. Tout à coup, ce qu'il croyait maîtriser lui échappe. La femme tombe enceinte. Il doit inventer un stratagème pour tenter de camoufler un enfant illégitime. À ce moment-là, le mari de cette femme est à la guerre. Il le fait revenir pour qu'il couche avec sa femme et que l'enfant, supposé venir de cette nuit passée avec son mari, eh bien, soit présenté comme l'enfant de son mari. Mais là encore une fois, les choses dérapent. Le plan ne marche pas. Et David s'enfonce de plus en plus, en imaginant cette fois un scénario où il pourrait éliminer peut-être le mari de cette femme. Et je vais vous lire maintenant le récit de cette lente descente aux enfers, mais une descente tellement typique de la manière dont le péché peut nous emprisonner, nous tous. Et nous lisons ce récit dans le chapitre 11 du deuxième livre de Samuel, 2 Samuel, chapitre 11, et je lis dans la version français courant. La dernière fois que j'avais prêché sur le livre de Daniel, nous avions parlé d'un combat contre les Ammonites. Ce combat avait cessé pour un temps, mais il n'était pas terminé. Le printemps arrive et la guerre reprend, et nous lisons ceci au printemps suivant. C'est la saison où d'habitude les rois partent pour la guerre. Le roi David envoya le général Joab à la tête de l'armée d'Israël et de ses officiers combattre les Ammonites. Ils ravagèrent leur pays et assiégèrent la capitale Rabba. David, lui, resta à Jérusalem. Or, un soir, après s'être reposé, David se leva et alla se promener sur le toit en terrasse du palais. De là, il aperçut une femme qui se baignait. Elle était très belle. Il fit prendre des renseignements sur elle et on lui dit: « C'est Bathsheba, la fille d'Eliam, et la femme d'Uri, le Hittite. » David envoya des messagers l'inviter. Elle vint chez lui. Il coucha avec elle, puis elle retourna chez elle. Or, elle venait de se purifier à la suite de ses règles. Bathsheba devint enceinte. Elle en avertit David. « J'attends un enfant, lui fit-elle dire. » Aussitôt, David adressa l'ordre suivant au général Joab. Envoie-moi Uri, le Hittite. » Joab l'envoya. Uri vint se présenter devant le roi, qui lui demanda des nouvelles de Joab, de l'armée, ainsi que du déroulement de la guerre. Puis il lui dit, « Joab, va chez toi et prends un peu de repos. » Uri quitta le palais et le roi lui fit envoyer un cadeau. Mais Uri ne se rendit pas chez lui. Il alla dormir en compagnie des soldats de la garde royale près de l'entrée du palais. Lorsque David en fut informé, il interrogea Uri. « Voyons, Uri, tu viens d'arriver après un long trajet. Pourquoi ne vas-tu pas chez toi ?»« Majesté, répondit Uri, le coffre sacré du Seigneur, ainsi que l'armée d'Israël et de Juda, n'ont pour abri que des tentes. Le général Joab et tes officiers campent en rase campagne. Et pendant ce temps, moi, j'irai à la maison pour manger, boire et dormir avec ma femme. Jamais de la vie je ne ferai une chose pareille, je te le jure. » « Bon, répondit le roi, reste encore ici aujourd'hui. Je te laisserai repartir demain. » Uri resta donc à Jérusalem jusqu'au lendemain. David l'invita à manger et à boire à sa table et il l'enivra. Mais le soir, Uri alla quand même dormir avec les soldats de la garde royale plutôt que de rentrer chez lui. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et la confia à Uri. Il y disait « Placez Uri en première ligne, là où le combat est le plus violent. Puis retirez-vous en le laissant seul, afin qu'il soit atteint par l'ennemi et qu'il meure. » Joab, qui surveillait la ville assiégée, plaça donc Uri à l'endroit qu'il savait garder par de valeureux soldats ennemis. Les défenseurs de la ville firent une sortie contre les assiégeants. Ils tuèrent quelques soldats et officiers de l'armée de David. Uri lui-même fut tué. Joab envoya alors à David un rapport sur le déroulement du combat en donnant au messager les instructions suivantes. Quand tu auras terminé le récit du combat, le roi va peut-être se fâcher et te dire « Pourquoi vous êtes-vous tellement approché de la ville lors de ce combat? Ne savez-vous pas que l'on tire du haut de la muraille? Souvenez-vous, qui a tué Abimélech, le fils de Yéroubal, à Thébès? C'est une femme. Elle a lancé sur lui une grosse pierre du haut de la muraille et il est mort. Pourquoi donc vous êtes-vous tellement approché de la muraille? Alors, si le roi te parle ainsi, tu lui annonceras l'officier Uri, le Hittite, est mort aussi. » Alors le messager partit, alla présenter à David le rapport dont Joab l'avait chargé. Et il lui dit, « Les défenseurs de la ville, raconta-t-il, étaient plus forts que nous. Ils ont fait une sortie contre nous en rase campagne, nous les avons quand même repoussés jusqu'à la porte de la ville, mais alors les tireurs à l'arc ont tiré sur nous du haut de la muraille. Et c'est ainsi que quelques-uns de tes officiers sont morts, entre autres, Uri, le Hittite. » Le roi répondit au messager, « Va redonner du courage à Joab en lui disant, « Oh, ne prends pas cette affaire au tragique. Dans une guerre, il y a toujours des morts de part et d'autre. Mène fermement l'attaque de la ville et détruis-la. » Lorsque Bathsheba apprit que son mari était mort, elle prit le deuil. Mais quand le temps du deuil fut passé, David la fit venir chez lui, il l'épousa et elle lui donna un fils. On pourrait se dire, quel gâchis, quel drame. David cause un immense tort à Bathsheba. Le narrateur ne met pas tant l'accent sur Bathsheba, mais quand vous regardez en détail sa vie, c'est une femme qui est abusée, qui a un enfant illégitime, c'est une femme qu'on va regarder de travers, c'est une femme qui souffre beaucoup dans ce récit. Mais l'accent est mis sur David et sur sa manière de commettre un acte infâme, avilissant, et de commettre un acte irréparable à l'égard du mari de cette femme. Il est hypocrite et il fait en sorte que ce mari meure finalement à la guerre et qu'il disparaisse. On peut se demander, mais comment est-il possible que David, cet homme saint, puisse commettre deux actes aussi monstrueux que l'adultère suivi d'un meurtre? Et la réponse est malheureusement simple. C'est comme pour la plupart des péchés, en se laissant entraîner dans la convoitise, dans la séduction, dans l'abus de pouvoir, dans une pente glissante, finalement, qui l'amène toujours plus loin. Remarquez que David, d'abord, se retrouve seul à Jérusalem. Normalement, il était avec ses troupes. À Jérusalem, il a déjà femme et enfants. C'est un homme d'âge mûr. C'est un homme qui se retrouve éloigné du cœur des affaires. Et quand on est dans une forme de solitude, dans une forme d'ennui professionnel, nous sommes plus prompts à nous laisser aller à la tentation. Preuve de cet ennui, sortant de son sommeil, il va se promener sur sa terrasse. Les bâtiments avaient des toits plats. Il se promène sur cette terrasse, la plus haute terrasse de la ville. De là, il voit tout ce qui se passe à côté. Il domine la situation. Il voit ce qui se passe dans les cours intérieures. Et son regard est attiré par une femme qui se baigne à l'extérieur. Une très belle femme, précise le texte. Est-ce qu'il a vu cette femme par hasard? Est-ce qu'il a cherché délibérément à savoir ce qui se passait dans les cours intérieures autour de lui? Le texte ne le précise pas. Mais ce qui pose problème ici, ce n'est pas qu'il ait aperçu dans un premier coup d'œil une femme qui se baignait. Ce qui pose problème, c'est que son regard se fixe sur cette femme et qu'il ne peut plus s'en détacher. Cette femme, il la voit, son regard est sur elle, il la désire, il la veut pour lui, il perd le contrôle de lui-même et au lieu de fuir la tentation, au lieu de prendre les jambes à son cou, au lieu de prier pour que le Seigneur ne le laisse pas entrer en tentation, il franchit ce premier pas qui va entraîner tous les autres. Le texte nous dit, il fait prendre des renseignements sur elle. C'est ce que Jésus appelle la convoitise déjà dans les pensées. Cette convoitise que Jésus appelle déjà l'adultère dans les pensées. Nous avons tous été placés une fois ou l'autre face à la tentation. Et j'imagine que vous avez tous déjà repéré ce moment où, quand vous êtes tenté par une chose que vous savez être mauvaise, il y a cette petite seconde de lucidité que vous avez, où vous vous dites « j'y vais ou je n'y vais pas ? Je fais ou je ne fais pas ?» Et dans cette petite seconde va se décider ce qui va advenir après. David connaissait parfaitement les commandements du Seigneur. « Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, » dixième commandement. « Tu ne commettras pas d'adultère, » septième commandement. Ou celui qui deviendra actuel plus tard dans l'histoire, « Tu ne commettras pas de meurtre, » sixième commandement. Or, qu'apprend-il en faisant prendre des renseignements sur cette femme? Il apprend qu'elle s'appelle Bathsheba. Ce n'est donc plus une simple anonyme. Ce n'est pas juste une femme. Elle a un nom, elle a une personnalité. Elle a une histoire de vie, elle a un vécu. Or, il s'avère que cette femme, c'est la fille d'Éliam, l'un des meilleurs guerriers de David. C'est aussi la petite-fille de son conseiller le plus fidèle. On l'apprend par d'autres textes de Samuel. C'est aussi la femme d'un de ses soldats de la garde rapprochée. Donc David sait parfaitement que cette femme est mariée, qu'en plus elle ne vient pas de n'importe quelle famille et que ça peut lui causer des problèmes, mais le désir du péché à ce moment-là est plus fort que tout. Il a parfaitement conscience qu'il va commettre un adultère s'il la fait venir, Mais le problème du péché, c'est que le péché ne semble pas être un péché au moment où nous le commettons. Souvent, c'est même le contraire. Nous avons l'impression que le péché va enfin nous permettre de nous épanouir, qu'il va nous apporter la plus grande des satisfactions, qu'il va nous permettre d'être comme des dieux, puisque quand nous choisissons de pécher, nous choisissons précisément de faire ce qui nous semble bon pour nous à cet instant précis, au lieu de nous en remettre à ce que Dieu sait être bon pour nous. Et donc, nous prenons la place de Dieu, nous décidons à sa place, nous faisons ce que bon nous semble. C'est le problème d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden, qui ont décidé à la place de Dieu qu'il était bon qu'ils prennent le fruit défendu. Satan leur avait interdit, il leur avait dit « vous serez comme des dieux ». Mais il y a un côté enivrant à pouvoir aller au bout de ses désirs sans que rien ne nous arrête, sans que rien ne nous restreigne. Quand David envoie chercher Bathsheba, je doute qu'il se sente pécheur. Il a sans doute l'impression de se sentir amoureux. Qu'y a-t-il de plus exaltant à ce moment-là ? On pourrait se demander s'il n'a pas mauvaise conscience quand même, s'il n'a pas le poids d'une certaine culpabilité dans ce moment précis où il franchit un interdit divin. Mais le texte ne le dit même pas. Ce qui semble dénoter d'une conscience altérée de la part de David. On a le sentiment qu'il ne veut pas savoir, même s'il sait que la Torah a interdit l'adultère, même s'il sait que les coupables sont sanctionnés par la peine capitale, dans ce moment précis, il ignore tout de cela, il ne veut pas savoir. Si vous regardez le récit attentivement, vous voyez que David est au centre de tout dans ce moment-là. Il n'y a plus de place pour le Seigneur. Le Seigneur est relégué à la périphérie. David a un but en tête, il veut atteindre ce but, et il ne veut surtout pas se préoccuper du Seigneur dans ce moment-là. Et si vous regardez attentivement le texte, vous voyez que presque jamais le nom de Bathsheba est mentionné. C'est toujours cette femme. Parce que dans ce moment-là, il y a comme un besoin de dépersonnalisation de la femme pour qu'il puisse en faire une femme objet. Elle n'est pas nommée. Le verbe qui revient à plusieurs reprises dans le texte, c'est le verbe « envoyer », qui semble être un verbe neutre en apparence. Mais quand on regarde en détail, on lit « David envoya prendre des informations sur cette femme. David envoya des messagers la chercher. » Ce verbe « envoyer » n'est rien d'autre que l'expression d'un abus de pouvoir. On n'entend pas la femme. Elle ne parle pas. Elle n'a pas les moyens de se défendre. L'assaut du roi est irrésistible. La femme est une proie. David, nous est-il dit, couche avec elle. Puis elle rentre chez elle. David pensait être maître de la situation, mais quelques semaines plus tard, Bathsheba découvre qu'elle est enceinte. Et que nous dit le texte ? Elle envoie dire à David qu'elle attend un enfant. C'est la revanche en quelque sorte. La revanche de Dieu aussi. Elle était dans une période fertile. Le texte nous précise qu'elle venait de sortir de ses règles. Et donc il n'y a pas d'autre père possible pour cet enfant que David. On peut se demander que faire dans un tel cas ? On pourrait se dire, devant l'inéluctable, on s'attendrait à ce que David reconnaisse son péché. Que peut-il faire d'autre ? Mais est-ce que c'est le déshonneur ? Est-ce que c'est la honte ? Toujours est-il que David n'est pas prêt à reconnaître le mal qu'il vient de commettre. Et plutôt que de passer par la reconnaissance de son péché, il va utiliser la tactique de la dissimulation. Pour lui, ça semble évident. Il se dit, mais la chose la plus simple à faire dans ce cas, c'est de camoufler ce qui s'est passé Mon plan est simple, infaillible. Je vais ramener temporairement le mari du front, je vais le laisser passer une nuit en amoureux avec sa femme, et je vais le renvoyer ensuite au front, à Rabat. Et pour que ça se passe bien, David envoie même un cadeau au couple, de manière à ce qu'ils passent une belle soirée en amoureux, et que ça se concrétise par un enfant à la clé. Mais environ 9 mois plus tard, se dit David, Bathsheba aura cet enfant, tout le monde pensera que c'est l'enfant de son mari, d'Uri. Uri, sans doute, en voyant cet enfant, va s'émerveiller, il va se dire que le Seigneur était bon, qu'il lui a donné un cadeau magnifique dans la guerre, et puis tout va rentrer dans l'ordre. C'est étonnant de voir parfois combien les événements de la vie peuvent nous échapper. Rien ne se passe comme David l'avait prévu. Uri est un soldat qui est loyal et qui refuse d'être mieux traité que les autres soldats qui sont restés au front. Donc il refuse de passer une nuit de rêve avec sa femme alors que les autres sont en train de dormir à l'extérieur. David va chercher à soudoyer de nouvelles fois Uri. Il va jusqu'à l'enivrer en le prenant à sa table, en lui versant et reversant et versant encore du vin, pensant que ivre, Uri va aller chez sa femme, passer la nuit, mais rien ne se passe encore comme il le veut. Et Uri refusera d'aller dormir chez lui. Finalement, ça devient de plus en plus compliqué pour David de reconnaître ce qu'il a fait. Parce que chaque acte l'enfonce un peu plus. De plus, il lui devient difficile de sortir de ce trou dans lequel il s'enferme. C'est comme s'il y avait une muraille infranchissable. Il ne voit plus d'autre solution que de liquider ce mari et de prendre cette femme pour sa femme. Et il se dit, l'affaire ensuite sera réglée. Et les choses vont rentrer dans l'ordre. Donc il fait envoyer un courrier au général Joab, qui n'est autre que son neveu, qui n'a donc pas vraiment le choix, et lui demande de placer Uri au front. Joab est certainement étonné par l'ordre de son oncle, mais il s'exécute. Et puis au plus fort du combat, Uri va être tué, comme malheureusement aussi quelques autres soldats et officiers de David. Quand David apprend la nouvelle, il répond de manière très cynique. Il dit, la guerre provoque souvent des dommages collatéraux. Quelques morts de plus, c'est ce qu'il fallait, c'était le prix à payer. Elle répond à Joab, mais ne prends pas cette affaire trop tragique. C'est la vie, c'est comme cela. Voyez combien le plan a dérapé d'un coup d'œil au départ jusqu'à l'adultère et à la mort de plusieurs hommes. David n'avait sans doute pas anticipé ce développement futur. Mais David s'est endurci de plus en plus pour ne pas avoir à répondre de son péché, pour fuir Dieu. On se retrouve avec une femme qui est veuve, qui se met à se lamenter, qui prend le deuil pendant 10 jours, 20 jours, ce n'est pas précisé. Et une fois le deuil officiel passé, David l'a fait venir chez lui pour la marier. Et peut-être que là encore, David continue de chercher à dissimuler ce qui se passe. Ce n'est pas précisé dans le texte, mais on peut imaginer que David use de ce qu'on appelle le droit de rachat. En fait, il existait en Israël un droit de rachat pour quelqu'un qui est une femme veuve afin de lui donner un avenir et de permettre qu'elle puisse survivre parce qu'elle n'avait pas les moyens matériels d'exister sinon. Or, son mari était un Hittite, un étranger. Une fois son mari mort, elle n'a personne pour exercer ce droit de rachat en Israël. Il est probable que David, pour sauver la face, pour cacher ce qui s'est passé, se présente comme l'homme providentiel de la situation, celui qui va sauver cette femme et qui va la racheter en étant son rédempteur, comme la loi juive l'autorisait, en la faisant venir chez lui comme sa femme. Et ainsi, tout va rentrer dans l'ordre. Et les gens se diront, mais quel homme généreux, quel homme magnifique. On ne peut pas s'empêcher de se demander, mais où est Dieu dans tout cela? Pourquoi Dieu semble-t-il absent de ces événements? Est-ce que ce n'est pas lui qui a prévu que l'adultère serait puni de mort dans la loi de l'Ancien Testament? Pourquoi n'intervient-il pas? Et ce qui est troublant, c'est que cette histoire semble se terminer de manière très heureuse pour David, parce qu'il a su être malin, user de son pouvoir et abuser même de son pouvoir. L'histoire se termine avec un mariage, un enfant, tout semble être rentré dans l'ordre, les apparences sont sauves, même si les plus intimes connaissent la vraie histoire. Ça me rappelle le psaume 73, un psaume composé par Asaph et qui fait ce constat désabusé. J'ai vu ceux qui ont renié Dieu et j'ai vu que tout leur réussit et j'ai envié ces insolents. Ces gens-là n'ont jamais d'ennui. Les coups durs sont pour les autres, mais pas pour eux. Mais l'auteur de ce psaume réfléchit. Il cherche à comprendre et finalement, il arrive à la conclusion que le sort de ces méchants n'est pas si envieux que cela. Et il écrit en fait, « Tu les mets sur une pente glissante, tu les fais tomber dans un piège. Ah, comme en peu de temps ils sont réduits à rien. » Alors avant de lire la suite du récit, parce que Dieu n'est pas absent de cette histoire, je vous invite à écouter une petite pause musicale et nous ferons ensuite la lecture du chapitre 12. Chapitre 12 de Samuel. Mais ce que David avait fait déplut au Seigneur. Le Seigneur envoya donc le prophète Nathan auprès de David. Nathan entra chez le roi et lui raconta cette histoire. Dans une ville, il y avait deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait de grands troupeaux de bœufs et de moutons. Le pauvre ne possédait qu'une seule petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui en même temps que ses enfants. Cette brebis mangeait le même pain et buvait le même lait que lui. Elle dormait tout près de lui. Elle était comme sa fille. Un jour, un visiteur arriva chez le riche. Et pour éviter de devoir prendre une bête de ses troupeaux pour le repas, il prit la brebis du pauvre et la prêta pour son visiteur. David entra dans une violente colère à l'égard du riche et dit à Nathan, « Que le Seigneur vivant m'entende, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Puisqu'il agit ainsi sans aucune pitié, il remplacera la brebis volée par quatre autres brebis. » « L'homme qui a fait cela, lui dit Nathan, c'est toi. Et voici ce que déclare le Seigneur Dieu d'Israël. Je t'ai consacré roi d'Israël. Je t'ai sauvé des attaques de Saül. J'ai livré en ton pouvoir la famille de ton maître Saül. J'ai mis dans tes bras les femmes de ton maître. J'ai placé sous ton autorité les peuples d'Israël et de Juda. Et si cela ne suffisait pas, je pourrais en faire encore bien plus pour toi. Alors pourquoi as-tu méprisé mes commandements en faisant ce qui me déplaît ? Tu as assassiné Uri, le Hittite. Oui, tu as tout organisé pour qu'il soit tué par les Ammonites. Puis tu as pris sa femme et tu l'as épousée. Eh bien, dès maintenant, la violence ne cessera jamais de régner dans ta famille, puisque tu t'es moqué de moi en prenant et en épousant la femme d'Uri. Écoute bien ce que je te déclare. Je vais faire venir le malheur sur toi, du milieu de ta propre famille. Sous tes yeux, je prendrai tes femmes et je les redonnerai à l'un de tes proches qui couchera avec elles au grand jour. Car ce que tu as fait en cachette, je le ferai arriver en plein jour, à la vue de tout le peuple. David répondit à Nathan, « Je me reconnais coupable devant le Seigneur. J'ai péché contre le Seigneur. » Nathan lui dit, « Puisqu'il en est ainsi, le Seigneur te pardonne. Tu ne mourras pas. Seulement dans cette affaire, tu as fourni aux ennemis du Seigneur l'occasion de le mépriser. Et c'est pourquoi ton enfant qui vient de naître mourra. » Puis Nathan retourna chez lui. Et si vous lisez la suite de l'histoire chez vous, vous verrez que David va prendre le sac et la cendre, c'est-à-dire il va jeûner pour essayer de demander, de réclamer au Seigneur que son enfant ne meure pas. Il se dit, mais qui sait, peut-être Dieu dans sa grâce me fera encore cette faveur. L'enfant va néanmoins mourir. David acceptera la sentence du Seigneur, mais il se remettra à vivre. Il aura un autre enfant avec Bathsheba, un enfant qui est aimé du Seigneur, un enfant qui prendra la succession de David sur le trône et qui s'appelle Salomon. Le chapitre 12 commence donc par cette sentence. Ce que David avait fait déplut au Seigneur. Dieu est venu le rattraper. Il lui envoie un prophète. Nathan, c'est le pasteur de David. Et ce pasteur vient lui donner un message sous forme d'une parabole avec un riche, un pauvre, une injustice flagrante. Et quand David entend cette injustice, il s'emporte, il dit « Mais cet homme riche doit mourir ». Et la parabole joue comme un effet miroir, renvoyant David à qui il est réellement. Nathan lui dit, cet homme-là qui doit mourir, c'est toi. C'est toi qui es ce riche injuste. Tu as volé la brebis du pauvre. Quand tu es allé arracher la femme de ton prochain, tu as volé la brebis du pauvre. Nathan ne fait rien d'autre que de prêcher l'Évangile. Et que fait l'Évangile ? L'Évangile met notre situation à nu devant Dieu. L'Évangile ôte la capacité de dissimulation et de mensonge. Et c'est en cela que l'Évangile est une bonne nouvelle. Parce qu'il remet tout sur la table, il met tout à plat, il ne laisse rien de caché, et il permet un nouveau départ. Il permet de partir sur de nouvelles bases. Cette parabole, cette histoire joue vraiment un rôle de révélateur pour David. David se projette extérieurement dans une autre histoire. Il fait une sorte de transfert sur quelque chose qui lui est externe, où il n'a pas trop à se préoccuper de lui-même. Mais en fait, sa réaction montre bien qu'il comprend le sens profond de cette histoire. David se condamne lui-même en condamnant le riche. C'est facile de chercher à s'acheter une bonne conscience en faisant du bien pour les autres, en voulant être le justicier des autres. David cherche quelque part à se racheter une conscience en réagissant de manière si dure dans cette histoire. Mais à un moment donné, il est mis à nu. Toutes ses défenses tombent. Dieu révèle ce qui se passe. Et ce qui est intéressant, et je vais prendre quelques minutes encore pour développer cela, c'est de voir comment cet homme est restauré dans sa relation avec Dieu. Et cette restauration passe par trois étapes. La première, David, c'est Nathan qui lui annonce la parole de Dieu. Si vous voulez être restauré après un péché, il vous faut entendre d'abord la parole de Dieu. Cette parole, elle est là pour venir illuminer les recoins les plus sombres de la vie. Elle est là pour mettre toutes les choses en évidence. Il n'est pas suffisant que Nathan dise à David « Tu es coupable ». Il faut que David puisse reconnaître lui-même qu'il est coupable. Et pour cela, il a besoin d'entendre la parole de Dieu. On ne parvient pas à une repentance profonde si on ne se laisse pas toucher par cette parole. Et comment Dieu s'y prend-il ? Il lui montre d'abord tout ce qu'il lui a donné. Je t'ai conféré l'onction royale, je t'ai délivré de ton ennemi, je t'ai donné des biens, tu étais riche, tu as reçu toutes les faveurs depuis ta jeunesse, tu avais tout. Et si tu n'avais pas assez, tu aurais encore pu en demander davantage. Cela met en relief d'autant plus le côté vil de David qui va chercher la femme d'un autre alors qu'il a tout. David doit maintenant répondre à une question que Nathan lui pose. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole du Seigneur en faisant ce qui lui déplaisait ? Verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole du Seigneur ? Et David n'a aucune excuse à présenter. Il n'a rien qui puisse justifier le fait qu'il ait commis cet adultère et que cet adultère est conduit ensuite à un crime et à la mort de plusieurs hommes. Et Nathan vient donc avec la sentence de Dieu. Dieu annonce qu'il va punir la faute de David d'une manière tout à fait similaire à la faute qui a été commise. David a commis une faute en prenant la femme d'autrui. Il aura des démêlés familiaux dans sa propre famille. David a tué autrui. Il aura des problèmes dans son royaume avec l'épée qui va continuer à sévir jusqu'au sein de sa propre famille. Voilà la sentence du Seigneur. On pourrait croire que c'est Dieu qui va directement prendre l'épée. Mais Dieu agit toujours avec les hommes, avec les circonstances de la vie. Et c'est au travers des événements de la vie que la sentence de Dieu va s'exécuter. Dieu va simplement ne pas mettre de holà et laisser les choses se faire, et ainsi la violence va régner, parce que le mal engendre toujours la violence de manière naturelle. Ce qui est remarquable dans la réaction de Nathan, c'est qu'il vient annoncer le jugement de Dieu, mais il dit à David que la dynastie qui lui a été promise, le fait d'avoir un descendant éternellement sur son trône, cela c'est une promesse qui ne lui sera pas ôtée. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ce descendant éternel sur le trône de David, c'est finalement la promesse d'un prince de paix qui viendra apporter le salut, la réconciliation avec Dieu, qui viendra pardonner les fautes, qui viendra permettre de donner une vie nouvelle. L'évangile demeure, même dans les fautes, même dans la condamnation, l'évangile de la grâce demeure. La deuxième étape, après avoir entendu la parole, c'est de donner suite à cette parole entendue. Il faut que David passe par la reconnaissance de son péché. Et David va dire « J'ai péché contre le Seigneur ». C'est des mots tout simples en apparence. « J'ai péché contre le Seigneur ». Cinq mots. Et cinq mots tellement difficiles à prononcer. Tellement difficile que ça conduit à toute cette catastrophe. Mais là, Il faut que David puisse sortir de son enfermement, qu'il puisse sortir de son silence. Jusque-là, il a échappé. Là, il ne le peut plus. Dieu lui a montré qu'il a méprisé toutes les faveurs divines. Dieu l'a mis face à la réalité, face à sa réalité. Et David dit, je me reconnais coupable devant le Seigneur. Vous en avez fait l'expérience, sans doute. Quand vous confessez un péché, c'est tellement humiliant. Ça demande tellement de courage. David, néanmoins, est prêt à perdre la face devant Dieu, mais aussi devant Nathan, qui est un de ses subordonnés, qui est quelqu'un qui lui est un de ses sujets. Vous savez, la repentance ici a lieu devant un témoin. Et je crois que ce n'est pas pour rien que dans l'Église, on a encouragé souvent d'avoir une confession devant témoin. On pourrait se dire qu'il suffit de confesser sa faute à Dieu. Mais il faut parfois la présence de quelqu'un pour que cette confession prenne corps, qu'elle prenne chair, qu'elle soit authentique, que quelqu'un l'entende, pas que Dieu seulement l'entende. Nathan joue le rôle d'une forme de médiateur ici, celui qui entend la confession et qui permet à David d'aller auprès de Dieu. La troisième étape, après avoir entendu la parole, après avoir confessé le péché, la troisième étape, c'est d'accueillir la grâce. Et la réponse de Nathan est fulgurante, elle est immédiate. David dit, j'ai péché contre l'Éternel. Nathan lui répond, le Seigneur laisse passer ton péché, tu ne mourras pas. Et c'est là le tournant dans la vie de David. Tu ne mourras pas. Contrairement à ce que la loi annonçait pour toi, tu ne mourras pas. David accepte de se soumettre à Dieu. Il reconnaît sa faute. Il veut reprendre le chemin avec Dieu. Et parce qu'il accepte de reprendre le chemin avec Dieu, la grâce de Dieu surabonde. Elle est plus grande que le péché commis. Dieu est prêt à retirer la sentence de mort sur cet homme pour lui laisser la vie. Et si vous lisez le psaume 32 chez vous, vous verrez que c'est une magnifique réponse de David, pleine de joie, pleine de la vie que Dieu donne, parce qu'il reçoit ce pardon de Dieu. Ce n'est pas toujours évident de recevoir le pardon, ce n'est pas toujours évident de se pardonner à soi-même et d'accepter le pardon de Dieu, mais c'est là le chemin d'une vie nouvelle. Et cette expérience va transformer David. Ça ne veut pas dire que la sentence qui a été annoncée sur sa famille, que les drames familiaux qui ont été annoncés sur sa famille vont être simplement retirés. Non, David devra endurer la conséquence de ses actes. Comme un criminel doit quand même s'il se repent, même s'il devient chrétien, ou même s'il se repent alors qu'il est déjà chrétien, devra quand même passer par la case prison, David doit passer par la case endurer les conséquences de ses actes. Mais sa vie désormais n'est plus sous le poids d'une culpabilité. Il est libre, il peut commencer une nouvelle vie avec Dieu. Son enfant va mourir, premier drame dans sa vie. Mais David renaît avec Dieu. Et j'aimerais terminer en vous invitant à regarder à Jésus, avant que nous prenions la scène tout à l'heure ensemble, et que nous puissions nous présenter nous-mêmes devant Dieu, parce que cette histoire de David nous ramène à notre propre situation. J'aimerais vous inviter à regarder à Jésus. Le Seigneur nous fait entendre une parole qui nous met face à sa parole de vérité. Une parole qui nous met face à notre besoin de salut. Le péché est quelque chose de laid, d'ignoble, quelque chose qui déshumanise. Mais quand Dieu accorde son pardon, il permet que nous entrions dans un nouveau chemin de vie et de liberté. L'Évangile, c'est la possibilité d'un nouveau départ. L'Évangile ne nous enferme pas, il ne nous condamne pas, il nous permet de repartir. Reconnaissons notre faute, si ce matin le Seigneur nous met face à nos fautes, pour qu'il y ait un nouveau départ possible. Jésus est celui qui veut m'amener auprès du Père. Un Père plein d'amour, un Père plein de compassion. Laissons-nous guider par Jésus pour recevoir l'amour du Père, sa compassion et son pardon en Jésus-Christ. Amen.